voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Sophie Tourlotin.
Tous les cinémas du monde prend ses quartiers d'été et vous propose de découvrir ou redécouvrir les meilleurs moments de l'année écoulée. Ce samedi, nous vous proposons une plongée dans le secteur de l'animation, un domaine du cinéma français extrêmement dynamique et reconnu dans le monde entier. Cela fait déjà 2 années de suite qu'un film français conquiert le festival d'Annecy qui vient de s'achever. « J'ai perdu mon corps » de Jérémy Clapin vient de rafler le Cristal, le prix le plus prestigieux et également le prix du public. L'an dernier, c'était Funan, également un premier long-métrage d'animation pour adultes, signé Denis Do. Un film qui raconte la prise du pouvoir au Cambodge par les Khmers Rouges en 1975 et aborde la douloureuse histoire du génocide Khmer Rouge par l'histoire d'une famille et d'un couple qui va tenter de retrouver son garçonnet de 4 ans. Nous avions reçu en mars dernier son réalisateur. Denis Do, bonjour.
Bonjour.
Nous allons avec vous parler de la genèse de ce beau film, du choix de l'animation, mais également de ce secteur très dynamique du 7e art français qui fait jeu égal en termes de créativité et d'attractivité des talents avec les États-Unis et le Japon. À vos côtés, Denis Do, dans ce studio, Clémence Bragard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes programmatrice et coordinatrice du festival à l'AFCA, l'Association française du cinéma d'animation. Et Frédéric Nagorny, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'animation au Gobelin, une école mondialement connue. Et d'ailleurs, vous avez eu Denis Do comme élève.
Sauva, en avance, s'il te plaît.
Ah !
Chou ! Ça va ?
Oui. T'inquiète pas.
Avancez ! Plus vite !
Ah non, mais moi je traverse pas. Il doit y avoir un autre chemin, c'est obligé.
Mais elle est minée, cette rivière, ils peuvent
pas... Mais bien sûr qu'ils peuvent.
Mais non...
Ils ont les armes. Ils font ce qu'ils veulent.
Ils nous laisseront pas faire demi-tour. On va devoir traverser.
C'est la mort, cette rivière, quoi.
On n'a pas le choix. On va laisser les gens passer avant d'y aller.
Sauvan ! Sauvan ! Sauvan ! Sauvan !
Denis Do, un extrait de Funan, hein, votre premier long métrage d'animation. On est au début du film et de l'histoire. Sauvan, c'est un petit garçon de 4 ans. Il se perd en fait dans la foule en voulant ramasser des fruits. Sa mère, Chou, est empêchée d'aller le chercher par des Khmers rouges hein, qui obligent tout le monde à traverser une rivière minée. Et ce couple, enfin, les parents, mettront des années à retrouver leur petit garçon. Cette histoire douloureuse, c'est une histoire qui vous est chère, enfin, qui n'est pas la vôtre personnellement, mais qui est celle de votre famille.
Effectivement, c'est basé en tout cas sur les témoignages que j'ai récoltés depuis tout petit en fait. Des témoignages que j'ai récoltés principalement de la bouche de ma mère. J'étais toujours très j'avais besoin de me nourrir de tout ça. Ce besoin-là, il est assez complexe à expliquer. C'est mêlé à la fois de curiosité, d'envie d'en savoir plus sur le passé familial et les origines en fait. Voilà. Et puis au bout d'un moment, bah, tout ça reste dans la tête, tout ça sert aussi à la construction, à ma construction tout au long des années. Et puis il y a un déclic, il y a plusieurs déclics même par ailleurs, il y a vers 12-13 ans, il y a la prise de conscience que tout ça dépasse l'histoire familiale, que cette période des Khmers Rouges, ça a une ampleur ça a impacté en fait énormément de familles, de réfugiés, mais également de personnes vivant actuellement au Cambodge. Et puis un dernier déclic qui achèvera, qui m'amènera à avoir envie d'en faire un film. C'était à Gobelin, justement. Situation assez banale de pause café autour d'une discussion avec un camarade. Et puis voilà.
Qui vous a dit, mais pourquoi tu ne racontes pas cette histoire ?
Exactement, exactement.
Alors, comme spectateur, on est en permanence avec Chou, son mari, sa famille. On est vraiment en empathie. C'est une histoire, en fait, dans laquelle tout spectateur peut pas se reconnaître, mais en tout cas peut se sentir impliqué, même si on n'a pas vécu, évidemment, le génocide de Khmer. On est vraiment à hauteur d'individu.
Khmer Rouge, on est à hauteur d'individu parce que c'était une volonté de départ et ma co-scénariste Magali Pouzol a complètement aidé à aller dans ce sens-là. C'était voilà de mettre tous les personnages à plat et de développer la psychologie de chacun. Il y a aucun personnage en fait qui est développé sans que ça amène à des réponses en fait sur son parcours quoi. Et les Khmer Rouges par ailleurs dans leur grande majorité sont traités de manière anonyme, en fait, on reconnaît pas qui est qui, donc c'est l'absence de visage sur l'oppresseur, en fait, simplement.
Vous avez choisi, enfin, d'un point de vue esthétique, donc les couleurs sont chaudes, les traits sont doux. C'est une façon, ce choix, c'est une façon de contrebalancer la violence.
Pas directement. Alors, dans un premier temps, l'idée d'être dans un style semi voire réaliste, c'était principalement pour comment dire donner corps, donner une présence charnelle humaine en fait à l'histoire en fait, ancrer tout ça dans on va dire l'historicité, la réalité du monde humain en fait. Par la suite, bah voilà, cet aspect, les couleurs, les ambiances, tout ça va participer très fortement, je pense, à dissocier l'environnement des personnages, en fait.
En quart, le Parti communiste a réuni tout le peuple khmer. Il sera bon avec vous, peuple nouveau. Il saura vous libérer du joug impérialiste. Toutes les forces du pays vont travailler ensemble. Elles nous mèneront vers l'indépendance, la victoire. Vous, peuple nouveau, avez trop longtemps été souillé par le capitalisme. Notre ennemi américain vous a perverti. Mais Ankar est bon. Il pardonne. Il vous purifiera. Le peuple ancien vous servira de guide. Suivez leur exemple. Nous avons beaucoup à reconstruire. Il faut travailler ensemble pour retrouver la grandeur des temps anciens. Vive Ankar !
Vive Ankar !
Mais parmi vous, peuple nouveau, des traîtres se cachent. Nous les détruirons. Ankar voit tout. Ankar entend tout. Vive Ankar !
Vive Ankar !
Un autre extrait de Funan, de Nido. Là, on est dans un des camps, on va dire, de rééducation, enfin de travail, de rééducation politique, hein, où Chou atterrit, enfin malgré elle, hein, donc elle est prisonnière, mm-hmm. et elle essaie de retrouver son petit garçon. Donc il y a ces moments-là, mais en même temps, vous laissez complètement hors champ les moments, les épisodes les plus atroces. Hein. On comprend plus qu'on ne voit. Ça aussi, c'est un choix fort.
Je me suis rapidement rendu compte que ce qu'on appelle les atrocités Khmer Rouge, tout ça, dans le cadre d'un film, on pouvait, et même en dehors du cinéma, c'était une pente assez dangereuse parce qu'on pouvait très facilement tomber dans le sensationnel, le racoleur. Essentialiser le film autour de ces atrocités c'était pas du tout le but. Je voulais pas faire un listing de la violence. C'était pas l'argument du film. Je voulais un film qui reste intimiste auprès de tous les personnages humains, simplement. Et notamment cette violence-là, en fait, cette espèce de créativité en termes d'atrocité des Khmer Rouges, je sais qu'elle aurait pu paraître exotique pour un public non averti, notamment le public occidental. Et cet exotisme-là, pourquoi je parle d'exotisme ? Simplement parce que c'est les méthodes que les Khmer Rouges employaient, elles sont choquantes, elles interpellent, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça, ni d'entendre ça dans les médias, enfin partout autour de nous aujourd'hui, et certainement pas en France. Et je voulais absolument pas susciter en fait une réaction, par exemple
de fascination, par exemple.
de choc, le fait d'être impressionné, fasciné aussi, et puis sortir de la salle et discuter avec les gens qui ont vu le film, ses amis, tout ça en se disant, tu te rappelles cette scène-là, machin. Ce que je voulais, c'était la perception, une perception, voilà, sur la globalité du film, de tous ces personnages, de tous ces espèces de, ces insectes, entre guillemets, l'insignifiance, en fait, des humains dans, à cette échelle-là. Plutôt que d'accentuer sur des faits, voilà, le choc gratuit, c'était pas le but, quoi. Voilà.
Et vous avez du coup, vous disiez que vous aviez été nourri de cette histoire, une histoire familiale depuis, voilà, votre plus tendre enfance. Néanmoins, pour préparer ce film, est-ce que vous avez fait un travail documentaire, soit vous êtes retourné sur place, soit vous êtes plus documenté sur la période pour être au plus près de la réalité historique?
Alors oui, il y a eu. Alors dans un premier temps, il y a eu un gros travail de mise en relation des événements, de leur perception liée aux émotions aussi ressenties, la confrontation des témoignages de ma mère avec des personnes qui avaient vécu dans les mêmes camps qu'elle. Donc ça, par exemple, ça a nécessité un voyage qu'on a entrepris avec ma mère en 2010. Et puis, comme mes co-auteurs, donc Magali Pouzol et Michael Crouza, qui par ailleurs est un ancien camarade de Gobelin. Comme eux sont peut-être beaucoup plus éloignés de l'histoire cambodgienne que moi, c'était nécessaire qu'on y retourne tous ensemble. On y a passé un mois et demi à deux mois et c'est pareil, on a visité des villages, on a rencontré justement des villageois. Ça a été très intense parce que voilà, on a passé quelques temps et puis il y a divers témoignages qui ont surgi soudainement de la bouche des gens qui étaient pas forcément préparé à nous raconter tout ça, mais c'était à force de tourner autour du sujet. Moi, évidemment, je demandais pas aux gens comment c'était durant cette période. On peut pas jamais aborder les choses frontalement comme ça. En fait, je parlais de ce que ma mère me racontait et je leur demandais leur avis dessus. Et petit à petit, en plus de me donner leur avis, ils me racontaient aussi leur parcours, quoi. Il y a une dame qui a même mimé une danse parce qu'elle faisait partie d'une troupe de propagande. Elle avait 16 ans à l'époque. Donc voilà, on s'est enrichi de tout ça, on s'est aussi documenté, on a beaucoup de photos, de livres sur place, notamment au centre Bopana, on y a passé quelques temps. Le centre Bopana, donc un centre de documentation, d'archives, tout ça que monté par Etsipan. Et puis voilà, moi en amont, j'avais lu aussi beaucoup de livres autobiographiques et c'était... La structure du film en elle-même, c'est-à-dire cette structure linéaire, chronologique, elle a été explorée maintes fois en fait par justement des livres autobiographiques, des films aussi. Généralement, vous avez cet exode qui survient du coup à partir du 17 avril, vous arrivez dans un premier camp. Quelques temps après, vous êtes déporté vers un second et puis voilà, des années après, il y a l'intervention, l'invasion par l'armée vietnamienne qui en avait un petit peu marre de subir des escarmouches des Khmer Rouges en fait.
Frédéric Nagorny, Denis disait tout à l'heure que peut-être les prémices de Funan, c'est à l'école des Gobelins. Du coup, vous avez été un des témoins privilégiés en fait de la naissance de ce film. C'était un film de fin d'études.
À l'origine, il y avait un petit court-métrage de fin d'études qui était assez remarquable en fait à l'époque. Ils étaient plusieurs. Ce sont des films d'équipe évidemment. Fin d'études et puis ils ont en fait mélangé énormément de techniques différentes. Et je sais que nous, à l'école, en encadrant, on était un peu sceptiques sur le mélange de techniques à l'époque, mais il y a vraiment eu de la 2D numérique, la 2D tradi qui a été scannée, tout ça a été mélangé. Il y avait un petit peu de 3D, il y avait un petit peu, beaucoup de choses variées en fait. Et je sais qu'à l'époque, on aimait bien qu'il y ait un seul logiciel pour faire le film, pour que ça soit simple à encadrer, etc. Et en fait, ça a très très bien marché, quoi. Et une partie, d'ailleurs, de Michael Crouza était sur ce petit film au départ. Il y avait Thomas Chara à l'anime, je me souviens, qui travaillait aussi en tradi, en 2D, mélange de flash, mélange de logiciels très différents, en fait. Logiciel pixel.
Il faut expliquer peut-être à nos auditeurs qui connaissent pas forcément. Ouais. La 2D, enfin, la traditionnelle, c'est, j'imagine, les dessins.
C'était, ce sont des dessins, mais on peut les faire, en fait. Enfin, à l'époque, en tout cas, on commençait à avoir des outils très variés, aussi bien pour digitaliser les dessins, les scanner et après les mettre en couleur en numérique, mais on pouvait aussi travailler directement avec sur l'ordinateur, avec des tablettes graphiques. Et je crois qu'à l'époque, on avait testé avec vous les cintiques, les premières cintiques.
C'est ça.
Hein, c'est-à-dire, cette fois, on dessine sur l'écran, pas sur une tablette, en regardant un écran à côté, mais là, on dessine sur des écrans. Donc, c'est très proche du dessin manuel, en fait, si on peut dire.
Mais donc, vous n'avez pas, vous, Denis Do, intégré l'école des Gobelins en vous disant « je veux réaliser en animation cette histoire ».
Je ne sais pas si ce genre de situation arrive, en fait. Je ne sais pas si, avant de rentrer à Gobelins, on a déjà une idée de long métrage en tête ou pas. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si on a la maturité.
Je ne crois pas que ça se passe pas comme ça, non. Moi, ça vient après, ouais. Oui, en fait.
Non, moi, j'avais toutes ces histoires de ma mère, tout ça était d'un côté. C'est pas forcément non plus. C'était pas forcément par ailleurs des choses que j'avais tendance à exposer. Voilà, c'était complètement par hasard pendant la pause café avec Gabriel que je lui ai raconté tout ça. Mais il est vrai que voilà, autour de 12-13 ans, moi, je me rappelle m'être dit qu'un jour travailler sur ce sujet-là, sur cette espèce d'héritage, un jour ça serait à l'ordre du jour. Voilà. Et puis, quand on entre à surtout pendant la période de fabrication du court-métrage étudiant, pour moi, il n'y a pas de lien artistique entre ces deux films. Je suis que un des co-réalisateurs du ruban. Pour moi, Funan, c'est vraiment quelque chose d'autre. Mais ce que j'ai appris en faisant le ruban, ce que j'ai appris de tous mes camarades co-réalisateurs, c'est durant ces étapes justement de développement. Toutes ces réflexions menées de fond en comble sur l'écriture, le storyboard, etc., j'étais pas conditionné par les films Disney, les films en me disant que les films d'animation étaient pour enfants et en plus le sujet qu'on traitait n'était pas dans le ruban.
C'est ça, je veux dire, c'est un sujet très fort, très dur. Le choix de l'animation pour le traiter est pas forcément évident. C'est pour ça que je vous posais la question.
C'est pas forcément évident par rapport à l'acceptation du public. En revanche, ça ne rend pas plus compliqué la fabrication. Ce qui est plus compliqué, c'est peut-être la recherche de financement, etc. Mais en termes de fabrication, c'est peut-être même plus simple en termes de reconstitution. Et par ailleurs, on parle souvent de... Par exemple, dans le cadre de Funan, on me pose souvent la question « Pourquoi le choix de l'animation ?» C'était surtout un non-choix, en fait. Quand on est dans le dessin, dans l'animation, quand on parle de faire un film, naturellement, c'est en animation. Et par ailleurs... Si on veut faire un film en prise de réel, quand on est de l'animation, là, on le précise, du coup. On veut faire un film en prise de réel. Sinon, un film, pour nous, naturellement, c'est de l'animation. Donc, il n'y a pas eu ce choix. Je ne me suis pas dit, ce sera en animation, pas en prise de réel. C'était juste... non, c'était complètement naturel. Et par ailleurs, par rapport à cette question, j'aimerais bien que les journalistes posent la question à tous les gens en prise de vue réel. Pourquoi vous faites votre film en prise de vue réel et pas en animation? Parce que nous, comme on nous la pose, on doit se justifier. Mais voilà...
J'imagine que ça prend plus de temps, peut-être plus de personnes, un film en animation.
Ça prend effectivement, logiquement oui, plus de temps, parce que quand vous avez une caméra et que vous tournez une heure, vous avez une heure de rush. En animation, vous pouvez travailler une heure, vous avez vous êtes très
long. Combien
de
secondes?
Quelques images. Ça dépend du budget, ça dépend de l'équipe, mais... Non, mais c'est quelques images. Vous voyez bien, en long métrage, les rythmes, c'est environ une seconde par jour, quoi. En animation dessinée traditionnelle très haute gamme. Bon, une seconde par jour avec une équipe un assistant, un intervalliste derrière, quoi. En plus d'animateur.
Donc, en moyenne, on va compter,
Clémence Braillard.
À peu près, 7 ans, on va dire, du début du développement d'un long métrage jusqu'à sa sortie. C'est une moyenne, hein, bien entendu, ça varie entre 10 ans et un peu moins selon, effectivement, comme le disait Denis, le budget qui a réussi à être levé par le producteur. Mais,
Oui, Clémence, et vous, Funan, c'est un film que vous avez, j'imagine, découvert ou vu à Annecy, en tout cas que vous accompagnez aussi en festival.
Alors oui, tout à fait. Le projet, j'en avais entendu parler il y a fort longtemps par le biais du producteur délégué, Sébastien Onomo, qui était venu présenter le projet, il me semble, en 2013 à Annecy. Et ça montre bien, je trouve, toute la patience et persévérance qu'il faut à une équipe de film pour mener à bien la production d'un long métrage d'animation. Je suis ravie de voir que... ils ont réussi ce pari-là, que le film est sorti. Et c'est vrai que par le biais de l'AFCA, donc l'association pour laquelle je travaille, on soutient tout particulièrement ce film et les films de ce genre qui relèvent de l'animation adultes et d'auteurs. Et effectivement, dans le cadre du festival qu'on organise à Rennes, et notamment en avril prochain, le film fera partie de notre sélection officielle, oui.
Une pause musicale dans tous les cinémas du monde. On reste néanmoins dans le secteur de l'animation avec le titre « La neige de l'année dernière » de Fontaine Wallace, dont le clip animé est signé Aymeric Guémas.
On dit que tu danses à moitié nue sur les terrasses au bord du précipice où nous buvions, t'en souviens-tu, du thé de Russie. Que tu plantes des orangers dans un désert tout au bout du monde où tes ouvriers sont épuisés, où ton lit leur servira de tombe. Ici rien d'aussi étrange, rien d'extraordinaire. Je cherche toujours la neige de l'année dernière. On dit que tu cours les casinos, que tu perds, que tu rembourses tes dettes avec les roses tatouées sur ton dos, avec les rimes que je t'avais offertes. Ici rien d'aussi étrange, rien d'extraordinaire. Je cherche toujours la neige de l'année.
Vous êtes bien à l'écoute de RFI. Tous les cinémas du monde se parent de couleurs ce samedi en consacrant une émission spéciale à l'animation française, fleuron du 7e art. Nous sommes toujours en compagnie de Denis Do, dont le premier long-métrage Funan est actuellement sur les écrans français, Clémence Bragard de l'Association française du cinéma d'animation et Frédéric Nagorny de l'École des Gobelins. Alors je le disais, l'animation française est un fleuron qui s'exporte. 29 films d'animation français qui se sont exportés en 2017, qui font beaucoup d'entrées. Et il y a une tradition française de l'animation. Je pense qu'on va se remonter, on peut même remonter aux origines, Frédéric Nagorny.
Oui, on peut remonter aux origines.
Avec Émile Cole, c'est ça?
On peut parler d'Émile Cole, on peut parler, oui, effectivement, la première projection animée, en fait, de cinéma animation, c'est, on le doit à un Français, avec du public, avec un écran, avec du son, de la musique synchro, et c'est 1892, quand même, avant la naissance du cinéma, quoi. Et avant les Frères Lumière, qui...
Donc il y a vraiment une tradition française, hein.
Oui, mais qui remonte et même européenne, puisque vous avez Plateau dans les années 1830 qui avait travaillé sur les phénakistiscopes. En fait, il y a eu énormément de... L'animation au 19e siècle était très présente, en fait, on le sait pas, mais sous la forme de jouets optiques et de... Il y avait des publications de phénakistiscopes dans les journaux, même. Les gens découpaient ça chez eux pour voir des petits cycles d'animation. Voilà, le 19e siècle. Et évidemment, avec l'apparition du cinéma, à ce moment-là, on peut filmer les dessins directement. On n'est plus obligé de dessiner et de projeter le dessin lui-même. On a une pellicule intermédiaire après, c'est le 20e siècle qui démarre l'animation, pour en parler, le cinéma, quoi.
Est-ce qu'il y a une école, on peut parler d'une esthétique française au même titre que l'on parle, l'esthétique japonaise ou d'une esthétique américaine, qui a été beaucoup figée, même si ça a changé et ça a bougé par Disney, évidemment.
C'est intéressant comme question. Je suis pas sûr qu'on puisse parler de... Il y a une spécificité, en fait, européenne ou française, c'est certain, mais cette spécificité-là, c'est peut-être de justement l'absence de style et de, au contraire, de rechercher des styles très variés, très différents. Parce que la culture graphique vient aussi de loin, en Europe et en France en particulier. Et donc, effectivement, on a des dessinateurs, des créateurs qui recherchent vraiment à trouver un style spécifique à la narration qu'ils vont avoir, si vous voulez. Donc ça, c'est une caractéristique française, c'est-à-dire trouver une esthétique qui correspond bien à l'histoire. Ce sont des choses qui sont pas si courantes. Si vous prenez les États-Unis, on sait qu'il y a un style américain d'animation, style de mouvement, style de design, de graphisme, de proportion. Il y a des produits dérivés derrière, il y a toute une industrie derrière. Au Japon, c'est complètement différent, mais il y a une esthétique analogue avec les grands yeux écarquillés, etc. L'anime spécifiquement qui vient des mangas, on voit bien, puis une anime avec qui saccade un peu parce qu'il y a moins de budget, donc on va mettre moins de dessins, et ça va saccader un peu. Donc en fait, ça a déterminé des styles très marqués. Et ben nous, en Europe, on est un petit peu entre les deux et on cherche à faire vivre des styles graphiques différents, quoi, et à trouver des mouvements qui s'adaptent aux styles graphiques spécifiques. Oui, on est dans la lignée à nouveau du 19e siècle avec.
Je crois qu'on peut parler d'auteur.
Oui,
d'auteur parce que c'est vraiment des spécificités liées à des personnalités artistiques, tout ça.
Et qui elles-mêmes, j'ajouterais sont engendrés en quelque sorte par les cursus et établissements de formation.
Oui, aussi, absolument.
Qui eux
valorisent ça justement, le fait de trouver des auteurs, enfin en tout cas valorisent l'individualisation.
Alors pour certaines, il est clairement assumé qu'elles forment des techniciens, donc elles n'ont pas vocation à former des auteurs, mais pour d'autres comme effectivement l'école des Gobelins ou d'autres écoles, elles vont faire en sorte d'alimenter leur spécificité.
Oui, en fait, même ce qu'on peut dire, c'est que les écoles ont leurs propres spécificités, ce qui est absolument étonnant, quoi. Vous avez des écoles comme MOPA, par exemple, qui travaillent sur de l'animation 3D spécifique, mais avec quand même des bases dessinées un peu au départ, solides, et qui ont des styles de films avec de l'humour assez réaliste, qui sont très agréables. Vous avez l'MK à Angoulême, où pareil, sont plutôt des films individuels, un peu d'auteurs qui travaillent seuls, quoi. Gobelin, ce sont des films d'équipe, c'est un choix d'école, d'équipe où il y a plusieurs réalisateurs, quoi. En fait, c'est ça l'idée. Et les gens sont à égalité, et au niveau des choix de réalisation, à en parler, même si certains ont des spécificités au niveau de la conception graphique, d'autres vont peut-être plus mettre l'accent sur l'animation, d'autres sur les recherches graphiques, les décors, etc. Mais la réalisation elle-même, c'est vraiment un travail d'équipe, quoi.
Oui, parce que vous peut-être préciser aux auditeurs qui connaissent pas forcément la façon dont on fabrique un film d'animation, mais il y a par exemple des animateurs qui s'occupent par exemple spécifiquement des décors.
Ah oui, il y a des métiers.
C'est très très segmenté, mais on ne le sait pas forcément quand on voit un film d'animation.
Alors on peut s'en rendre compte si on va jusqu'au générique de fin où on a les différents départements en fait qui travaillent, les départements couleurs, départements etc. Mais c'est vrai que sur un long métrage, on est obligé d'avoir en général une grosse équipe, quoi, et donc les gens sont relativement spécialisés. C'est une spécialisation qui peut être quand même assez ouverte, hein. Vous pouvez travailler sur design de personnages, du design de décors, ça peut être varié aussi quand même, hein. Mais le décor couleur, sont des gens qui sont très bons en couleur, hein. Et souvent, on leur a préparé le décor dessiné. C'est d'autres spécialistes qui sont spécialistes de la perspective, du dessin en perspective.
Donc il y a une grande division du travail.
Il peut y avoir une grande division du travail. Sachant que, malgré tout, si on prend l'exemple au Gobelin, ce sont des équipes de 4 à 6 personnes, en gros. Hein. Et l'intégralité des petits films de fin d'études se font à 5 à 6 personnes. Donc, ils ont chacun leur force, mais c'est quand même une équipe très réduite, hein. On peut parler de films d'auteur, quoi.
Il faut apprendre à s'en servir, regardez. Maintenant, posez l'anime.
C'est amusant. Laissez-moi essayer.
Pas si fort. Cet animal est fragile. Vous pouvez lui faire mal. Comment allez-vous l'appeler?
Je vais l'appeler Tiva, comme moi.
Mais ce n'est pas un nom d'homme. Il faut l'appeler fidèle ou rapide. Regardez comme il gesticule, il a l'air terrible.
Je vais l'appeler Terre. Terre. Terre.
Un extrait de La Planète Sauvage. Alors, on parlait tout à l'heure avec Funan du fait que l'on pouvait traiter de tous les sujets en animation. Hein, et cette esthétique n'est pas réservée, cantonnée au sujet pour enfants. La Planète Sauvage de René Laloux, écrit avec Topor, c'est un film d'animation de science-fiction. C'était une stèle, hein, prix spécial du jury de Cannes en 1973. C'est un film qui montre que l'animation est un médium extrêmement plastique. Je sais pas si c'est un film qui vous a marqué ou que vous connaissez autour de cette table. Oh, bah là, Frédéric Nagorny, oui, forcément, oui. Qui est oui, enseignant. Sauvage,
oui, oui, c'est un film assez étonnant. Ouais, en plus, j'étais retourné le voir, il passait au Kino Panorama, qui est pas très très loin, à l'époque. Hein. Et donc, je l'ai vu en écran énorme, quoi, cylindrique, quoi, enfin, vous voyez. Oh, et c'est fou parce que c'est un film en papier découpé. Donc, et du coup, comme c'est en papier découpé, chaque personnage a un tas de textures sur lui, ce qu'on peut difficilement faire en animation 2D classique, quoi, comme c'est du papier découpé. Et du coup, la richesse de l'image, en fait, apparaît vraiment en écran géant.
Alors, je sais pas si c'est lié. L'école des Gobelins, enfin, le département animation des Gobelins est créé 2 ans après La Planète Sauvage. Je suis pas sûr qu'il y ait un lien de cause à effet.
Non, il n'y a pas. Non, l'origine ne vient pas de là, mais c'est les entreprises, en fait, de l'époque qui étaient en train de l'animation se développait un peu. Et donc, il y avait besoin de gens formés à l'animation, et il n'y avait pas vraiment de formation spécifique. Et donc, ils se sont adressés à la Chambre de commerce qui a monté un département, en fait, test un peu pour former des dessinateurs d'animation. À l'époque, ça s'appelait dessinateurs d'animation. Et les gens sortaient plutôt comme assistants animateurs à l'époque pour pouvoir se roder après, quoi. Et la formation était plus courte. Actuellement, on est sur 4 ans, mais à l'époque, c'était des formations de 2 ans, quoi.
Et longtemps, Gobelin a été un peu seul en France. Maintenant, il y a des nombreuses écoles.
Alors, oui, les écoles sont vraiment développées dans les années 90-2000, quoi, en fait. Et simplement parce que le marché s'est ouvert. Et en fait, c'est suite au plan image. Hein. Il y a eu un plan image dans les années 80. Jacques Lang a investi vraiment dans les développements des studios, création de studios, création de logiciels d'animation pour essayer d'aller plus vite et d'être plus efficace au niveau de la mise en couleur, et puis aide de la part du CNC au niveau des productions. Et il y a beaucoup de séries télé qui sont développées à ce moment-là, de studios qui se sont créés, et dans la foulée, il fallait alimenter les studios, donc. Et les écoles, petit à petit, voilà, fin des années 90, vous avez la création d'écoles ailleurs, spécifiques, quoi. Mais c'est vrai que les Gobelins, c'est longtemps resté, peut-être, oui, depuis ses débuts jusqu'à mi-90, on va dire.
Et toujours dans le tiercé de tête, hein, des écoles mondialement reconnues.
Oui, la formation est assez équilibrée. C'est une formation pointue quand même. Hein. Il y a beaucoup de professionnels, en fait, qui viennent et qui sont des formateurs, quoi, qui viennent. Donc, ils enseignent les techniques pratiquées dans le studio, qu'ils connaissent, qu'ils pratiquent tous les jours, quoi. Donc, ça aide beaucoup à avoir une formation de bon niveau. Puis, le cursus est solide, quoi, quand même.
Donido, voilà. Est-ce qu'il faut être bon en dessin pour entrer au Gobelin?
Il faut l'être, ouais. Je pense que le dessin, ça doit être, ça doit ne plus être un handicap, justement. On doit savoir, ça doit être plus une force qu'un handicap, donc. Et moi, par ailleurs, j'avais surtout tenté les Gobelins par challenge vis-à-vis du dessin, parce que l'animation en soi, c'était pas le, comment dire.
C'était pas ce qui vous tentait le plus?
Non, je connaissais rien de l'animation. Tous les départements qu'on mentionne, tout ça qui existe dans les métiers, les différents métiers qui constituent la base pour pouvoir fabriquer un film ou une série, je connaissais rien de tout ça. Je regardais même très peu d'animation, en fait. Voilà.
Mais vous dessinez?
Oui, je dessinais, mais le dessin et l'animation sont liés, mais c'est pas fondamental pour tout le monde non plus. Moi, c'était donc juste un challenge et j'ai découvert l'animation. Je m'en rappelle, l'un des premiers exercices de layout. Je savais pas ce que c'était.
Alors, c'est quoi le layout?
Alors, comment le définir? Fred, tu m'aides.
C'est le département le plus difficile à définir parce que en fait on le voit pas à l'écran. C'est on voit le travail de l'animateur, du cleaner. Les dessins sont à l'écran. En fait, le layout, non, c'est la préparation des plans. Quand on fait le storyboard, donc le storyboard, c'est l'image en petit dessin réduit, quoi. Un peu comme une bande dessinée, c'est pas une bande dessinée, mais ça y ressemble quand même. Et donc à un moment donné, il faut agrandir ces petites cases qui sont sommaires pour les mettre au format de travail de l'animateur. D'accord.
Et là, ça se rapprocherait plus du spectacle vivant, c'est de la scénographie.
C'est de absolument. Ça correspond à du cadrage, la mise en scène. Voilà. Donc on agrandit la case de storyboard au format définitif de travail, en fait.
Et c'est un concours, donc vous disiez de Nido, c'était un challenge. Le concours d'entrée au Gobelin est très très sélectif, hein. Je crois qu'il y a un candidat sur 20 qui intègre. Donc,
est-ce que c'est ça? Je sais pas, il y a 600 candidats par an et il y a 29 places, quoi. Il y a 30 places. Donc on est dans ces rapports-là, ouais.
Et une fois qu'on est étudiant au Gobelin et a fortiori diplômé, là, on est sûr de trouver du travail. Je crois qu'il y a des...
Oh, a priori, ils travaillent, oui, tous, normalement. C'est un secteur un peu particulier, puisque c'est en France, en tout cas, c'est le secteur de l'intermittence du spectacle. Donc, vous travaillez, vous avez un contrat sur une production. Donc, tout dépend de la production. Si la production est très longue, si c'est un long métrage, vous pouvez avoir un contrat de 6 mois, par exemple. Si c'est une pub, vous risquez d'avoir un contrat d'un mois parce qu'il faut la livrer vite, quoi. Donc, les gens travaillent tous, sachant que, ils ont des périodes de creux entre les productions. Mais l'idée, c'est travailler le plus possible sur des productions variées.
Mais c'est complètement pertinent de parler de l'intermittence, justement. Parce qu'on ne peut pas parler d'excellence, tout ça, dans de filière d'excellence, et constamment parler des écoles, constamment parler de succès en termes de chiffres, tout ça, et ne jamais poser de questions aux artistes, en fait. Parce que là, aujourd'hui, j'ai la chance d'être là, de parler avec vous, d'échanger, mais voilà, je suis, entre guillemets, à la tête de mon film, mais en bas, à côté, j'aime pas dire en bas, autour de moi, il y avait moult artistes. Et c'est le cas dans plein de productions.
Bien sûr,
alors
ouais.
De la série au long métrage. Et faut leur poser la question. Ils vont vous dire que c'est pas rose tous les jours. Parce que quand l'État cogne sur le statut, je sais pas le bon terme, mais sur le régime de l'intermittence, ça impacte cette filière aussi. Ça nous impacte, on voit des conditions se détériorer. Et voilà, la hausse du nombre de productions, la hausse du nombre de sociétés de production également, ça fait pas augmenter les salaires du tout. Au contraire, bien au contraire.
Oui, donc quand on parle d'un secteur qui recrute, des postes qui sont pas pourvus, c'est sans doute vrai. Mais ce que vous dites, Denido, c'est qu'en fait, pour qu'elle, c'est pas forcément rose, on fait pas des ponts d'or.
Je vais vous donner le cas de mon film, en fait. Là, aujourd'hui, c'est... Actuellement, sur la réalité du film, dans son exploitation, bon, déjà, c'est pas très rose tout ça, mais on va pas forcément en parler. Ce que je veux dire, c'est que derrière tout ça, on est très content, effectivement, d'avoir des prix, etc., que le film se remarque. Mais la réalité de la fabrication du film, c'est que, en termes de partenaires, on a eu le minimum. C'est-à-dire que les partenaires traditionnels, les chaînes télé, n'ont pas voulu du film. Tous les France TV, tout ça. Ils ont eu peur. Moi, je croyais que le but de leur implication, c'était de soutenir le cinéma. C'est pas forcément le cas à mes yeux, du coup. Donc, ils ont eu peur. Il y a beaucoup de distributeurs qui ont eu peur aussi. Moi, je considère que les artistes français sont les meilleurs du monde. Je pense que beaucoup de studios dans le monde le pensent aussi. C'est pour ça qu'ils viennent chez nous. En revanche, on peut pas avoir les meilleurs et ne pas offrir aux meilleurs ce qu'il y a de meilleur. Simplement. On peut pas faire des restrictions, se servir de nous parfois comme levier ou pour balancer financièrement certaines décisions. Je veux dire, quand, par exemple, vous avez les Allemands qui vendent leurs voitures, ils les vendent pas moins cher, ils les vendent le plus cher possible parce qu'ils savent qu'ils sont les meilleurs. En tout cas, ils veulent le faire croire. Mmh. Et nous, on l'est. Et donc, il faut que les choses derrière suivent, simplement.
Justement, Clémence Brégard, je sais que c'est connexe, mais enfin, c'est sans doute lié. Vous me disiez que l'AFCA avait comptait ouvrir un atelier pendant le Festival de Cannes, c'est ça, pour sensibiliser les partenaires à l'animation, à l'utilisation de l'animation, notamment dans des films destinés à un public plus adulte.
Oui, alors c'est vrai que bon, on s'éloigne un peu, mais de ce que vient de dire Denis, mais effectivement, c'est lié. L'AFCA s'associe en fait à CITIA, qui est la structure organisatrice du Festival international du film d'animation à Annecy, pour une action qui aura lieu le 19 mai à Cannes, qui vise en fait à toucher les exploitants. Là, l'idée, à travers une action telle que celle qu'on va mener, qui n'est pas un atelier, mais une table ronde et une présentation de projets en cours de projet de long métrage adulte en cours de développement, c'est de sensibiliser les exploitants à ce type de contenu, sachant que les projets qu'on présentera et les études de cas seront pour en majorité des projets français, où on a envie de montrer quel niveau de qualité on peut attendre d'un film d'animation pour adultes produit essentiellement en France. Et en fait, on va mener finalement une action de pédagogie, parce que on se rend compte que le réseau de l'animation, le microcosme des professionnels travaillant dans l'animation en France est sensible à ces problématiques qui sont rencontrées par les auteurs, par les producteurs qui portent des projets, mais finalement la cible de ces projets-là, donc le public, mais qui passe après les exploitants, a besoin d'être sensibilisé, a besoin d'une médiation en fait sur ce type de contenu proposé.
Je crois qu'il y a vraiment un clivage entre les auteurs et les autrices et le public en fait. Il y a bien entendu les exploitants qui sont en plein milieu, qui du coup sont déterminants, mais qui malheureusement, je trouve, certains ne savent pas comment travailler un film en fait. Par exemple, quand la notion de film d'animation adulte, je pense que c'est une notion qui fait peur, c'est une notion qui prête à beaucoup de confusion. Le même film tourné en prise de vue réelle il n'y aurait pas eu tout ce charabia, tout ça autour quoi. Quand un film a la palme, a priori ça marche bien en termes d'exploitation. Quand un film fait en animation a un prix à Annecy, et j'aime pas me vanter sur ça, j'aime pas que le film prenne de l'ampleur grâce à ça, mais a priori le prix,
ça, c'est censé servir à ça.
Voilà, a priori le Cristal d'Annecy du long métrage, c'est quand même l'un des prix les plus importants du monde. Mais quand derrière ça, on n'a aucun Pathé, aucun UGC, aucun et les MK2, c'est
parce que Funan n'est pas distribué, voilà. Ni dans les Pathé, ni dans les
MK2, c'est risible. Il y a un MK2 à côté de chez moi. J'habite dans le 19e arrondissement. Je me rappelle, il y a quelques années, avant que le film, on n'avait pas encore commencé le film, je marchais avec ma compagne, je lui disais, tu vois le MK2 Quai de Seine et le MK2 Quai de Loire, le Quai de Seine, ils sont plus film d'auteur que Quai de Loire. Quai de Loire, c'est plus gros film américain, tout ça. Et ben qu'est-ce qui se passe? Funan passe au MK2 Quai de Loire. C'est une aberration pour moi. L'affiche est exposée à moitié. Le film partage la salle avec un autre film. On est diffusé à des horaires d'enfants. Qu'est-ce que c'est que ce travail, quoi? Je crois que c'est pas peu dire que ces exploitants-là tuent le film, en fait. Le film est juste en train de mourir, simplement. Et évidemment, moi, j'ai un lien très particulier avec ce film, au-delà de l'aspect personnel. Ce qui est très, ce qui fait beaucoup de mal, c'est quand on voit en fait l'implication de tout le monde derrière, qu'on a fait tout ça avec beaucoup de sincérité, avec très peu de moyens, que ce travail mine de rien a été reconnu par plusieurs festivals, beaucoup de prix du public. Ça veut dire qu'il y a un lien qui peut se créer entre ce film et l'audience en fait, mais que certains exploitants refusent de faire l'intermédiaire. Parce que il y a plusieurs, je sais pas pourquoi en fait, je peux pas parler à leur place, mais c'est déplorable. Là, typiquement, en plus, on parle d'un film européen, français, en plus. Je demande pas ce qui est une préférence, mais voilà, c'est dommage.
Oui, c'est vrai, mais faut voir aussi que l'animation, ça s'amortit dans la durée, quoi. C'est-à-dire que ce film-là, Finan va avoir un succès. Je parle vraiment de succès dans la durée, c'est une certitude.
Je sais, en fait, tu dois certainement parler de certains dispositifs comme collège et lycée.
Oui, etc.
C'est formidable. C'est formidable, ce genre de dispositif.
Alors, ça permet pas forcément de financer. Je comprends bien qu'au niveau des recettes, ça permet difficilement de financer le film suivant, etc. par rapport au...
À l'économie.
Au secteur économique, c'est évident.
Je sais pas si en France, on arrive à faire des films pour financer d'autres films.
Funan, juste le budget, c'est quoi un budget de, pour un film?
C'était autour de 4,6 millions. Alors par rapport à la prise de Hurel, effectivement, ça sonne comme beaucoup, mais tout à l'heure, justement, on se le disait, ça met du temps à fabriquer. Et
il y a beaucoup de personnes qui interviennent, beaucoup d'artistes.
Exactement.
Ouais, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, pour aller un peu dans le sens de ce qu'on vient de dire, c'est que c'est le secteur de l'animation qui rapporte le plus d'argent à la France au niveau des ventes internationales. Devant la prise de vue réelle, devant les documentaires, mais de beaucoup, quoi. Donc, faut imaginer que ce secteur, en fait, il est, financièrement, il est exceptionnel.
Il est plus que rentable.
Ah bah oui, plus que rentable.
Or, artistes ne sont pas rémunérés à la hauteur.
Ce qu'on peut conclure, c'est assez étonnant quand même. Il y a une sorte de paradoxe, c'est comme si peut-être le secteur ou la production s'était pas mis à niveau de l'enjeu commercial qu'il y a derrière, quoi. Si on peut dire, quoi.
Mais finalement, l'ensemble des acteurs et parties prenantes sur des productions françaises en animation pâtissent, enfin, c'est un cercle vicieux, pâtissent elles-mêmes du manque d'investissement. Et c'est vrai que si on essayait d'imaginer des pistes de réflexion pour que le financement se fasse, les personnes investies financièrement prennent des risques en investissant un peu plus et où on puisse arriver à un budget de 7 millions sur un film comme Funan, ça permettrait aussi d'assurer en fait sa viabilité ensuite économique et en France et à l'étranger. C'est pas le cas.
C'est vrai qu'on est
dans... Après, Funan à l'international, c'est quand même particulier parce que ça traite d'un sujet assez spécifique et il y a peut-être certains pays qui auraient pu être intéressants commercialement parlant mais qui ne passeront pas le film en fait.
Comme
par exemple, je crois je vois pas Funan passer en Chine même si j'aurais personnellement adoré. Mais tant pis.
Enfin, ça fait aussi partie du cinéma pour adultes quand même. Hein. Ce sont des films. En France, on a aussi ça. Enfin, on a fait Persepolis, on a fait. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On a des.
Oui, c'est ça.
C'est des sujets forts quand même. Hein, qui.
Après, c'est important de rappeler aussi Persepolis ou Valsak Bachir. Ce sont des films qui sont sortis à une autre époque. À une autre époque où il y avait moins de films par semaine. Tout ça.
Absolument.
Et là, c'est très dur. C'est moi, j'espère que les films là, qui arrivent dans l'année hein, qui sont en train de se faire aussi, notamment Calamity de Rémi Chaillet, sur lequel j'ai eu la chance de travailler. J'espère que ces films vont pouvoir cartonner. Que moi, j'attends vivement le jour où justement l'animation va arrêter d'être une niche en réalité, quoi.
Merci à tous les trois, Clémence Braga, Frédéric Nagorny et Denis Do. On attend prochainement la sortie de Funan en DVD et on vous reparlera animation française avec la sortie à la rentrée de deux très beaux films, Les Hirondelles de Kaboul et J'ai perdu mon corps. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin, à la réalisation, Fanny Renard. On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma, pour la rediffusion de l'émission spéciale que nous avions consacrée au documentariste Nicolas Philibert. D'ici là, bonne semaine à tous.